La masse de Clavisol.
Un micro pour un établissement nouveau.
Bonjour Madame Mandran, vous êtes présidente de l'UNAFAM. Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre rôle dans l'UNAFAM ?
Alors, j'ai été présidente de la délégation UNAFAM du Rhône, mais je ne le suis plus actuellement. J'ai été présidente pendant 3 ans et je suis encore bénévole à l'UNAFAM du Rhône. Voilà. Et l'UNAFAM, c'est l'Union nationale de familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques. Alors moi, je suis membre du bureau de la délégation, c'est-à-dire que je veille, le bureau assure le bon fonctionnement de la délégation. Il définit les orientations, il coordonne l'activité des bénévoles. Et moi-même, j'ai une fonction de représentant des usagers familles et des usagers patients dans un des grands hôpitaux psychiatriques de la région lyonnaise et dans les structures médico-sociales et sociales, comme La Roche, par exemple.
Quelles ont été vos motivations personnelles pour vous investir dans cette activité ? Avez-vous été concerné dans votre entourage par la maladie mentale ?
Oui, je suis moi-même la mère de 3 enfants. Et donc, j'ai un de mes fils qui a été touché par la maladie psychique à l'âge de 20 ans. Et j'ai eu la chance d'être orientée très tôt vers l'UNAFAM sur les conseils d'un médecin psychiatre. Et auprès de l'UNAFAM, j'ai eu écoute, information et soutien. Et j'étais en activité professionnelle à ce moment-là. Et je me suis promis qu'une fois que je serai à la retraite, je donnerai à mon tour de mon temps pour aider les familles qui sont désemparées par la maladie psychique d'un proche. Et c'est ce que je fais maintenant.
Alors, parlez-nous précisément de l'UNAFAM. Quels sont ses rôles, fonctions et activités ?
Alors, l'UNAFAM, c'est une association qui est reconnue d'utilité publique et qui est présente dans tous les départements de France. Et elle accompagne depuis 60 ans les familles et l'entourage des personnes qui vivent avec des troubles psychiques sévères. Alors, l'UNAFAM est constituée principalement de bénévoles. Il y en a 1600 en France et il y en a une 50aine dans la délégation du Rhône. Et ces bénévoles, ils se relaient pour briser l'isolement des familles et leur permettre de retrouver la force d'avancer malgré la maladie. Alors la première mission de l'UNAFAM, c'est de soutenir les familles par l'accueil, par l'écoute, par l'information et la formation. Et sa deuxième mission, qui est tout aussi importante, c'est de défendre les intérêts communs et les droits aussi des personnes concernées et des familles. Et enfin, l'UNAFAM se mobilise pour faire changer le regard de la société sur les personnes malades et sur leur entourage, pour lutter contre les préjugés et sortir de la stigmatisation.
Quels sont les besoins que représentent les familles concernées par la maladie mentale ? Ce sont des conseils d'information, d'aide financière, physiologique.
Les familles, elles sont très fortement éprouvées par la maladie de leurs proches qui reste encore tabou, dont on parle peu. Ou lorsqu'on en parle, c'est souvent en termes négatifs. Alors les familles se sentent coupables. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Ou qu'est-ce que j'ai mal fait avec mon proche ? Alors, elles s'isolent et elles s'enferment dans leurs difficultés. Elles s'épuisent à chercher des solutions toutes seules. Et lorsqu'elles viennent nous rencontrer à l'association, elles peuvent enfin se confier, déposer leur fardeau, bénéficier d'une écoute bienveillante et attentive, parler avec des pères aidants familles, qui sont des personnes qui ont vécu ou qui vivent encore les mêmes épreuves et une expérience semblable à la leur et des personnes qui donc les comprennent. Et cette aide aux aidants que leur apporte l'association UNAFAM, elle est essentielle pour que les familles reprennent espoir. C'est ça qui est très important, c'est l'espoir, parce que l'espoir, ça permet d'avancer. Et nous, nous leur proposons des groupes de parole, des journées d'information sur les troubles psychiques, des ateliers d'entraide. Nous les informons sur les ressources qui existent sur le territoire, au niveau médical, médico-social et social pour leurs proches. Et ce qui est important, c'est qu'une famille bien informée et bien formée, bien accompagnée, et le plus tôt possible, eh bien, c'est une aide formidable pour son proche malade. Et cette famille, elle pourra à son tour l'accompagner pour lui permettre de se rétablir de la maladie. Parce que la maladie, on peut vivre avec de manière satisfaisante.
Par rapport à la masse de Clavesol, quelles sont vos relations et vos interventions avec elle?
Alors, l'UNAFAM a suivi depuis l'origine avec beaucoup d'intérêt le projet de la masse de Clavesol. Et l'UNAFAM fait d'ailleurs partie du comité stratégique qui statue sur les demandes d'admission des résidents de la masse et elle porte la voix des familles. Donc, moi, pour ma part, je suis venue deux fois, en janvier et en février 2023, là, très récemment, avec une autre bénévole de l'UNAFAM pour rencontrer les professionnels de la masse. Et c'était l'occasion de ce que nous appelons une sensibilisation. Nous leur avons parlé du rôle important des familles dans l'accompagnement de leurs proches et de la nécessité que les familles connaissent les associations telles que l'UNAFAM pour se faire aider. Et nous avons d'ailleurs appris que seul un quart des résidents de la masse sont en lien régulier avec les familles, car la maladie psychique conduit malheureusement à des ruptures. Et le personnel, justement, de la masse a une mission importante de maintien du lien et de facilitation du contact, justement, entre les résidents et les familles.
Que pensez-vous de cette nouvelle structure et de son implantation dans un petit village rural? Cela peut-il être bénéfique aux résidents et comment?
Oui, j'en pense beaucoup de bien. Ici, je pense que les personnes sont dans un cadre de vie qui est agréable, au cœur de la nature, où elles peuvent aller et venir librement, alors qu'elles ont vécu enfermées tout de même à l'hôpital pendant des années. Et on sait que l'hôpital est un lieu de soins, mais ce n'est pas un lieu de vie. Donc je pense qu'ici, les résidents peuvent vraiment s'épanouir, profiter d'un ensemble d'activités et puis vivre au contact des villageois qui apprendront à les connaître petit à petit à travers un certain nombre d'événements qui se font dans les villages. Et les villageois certainement apprécieront les personnes parce que les personnes malades psychiques, elles sont en quête de contact et de relations avec les autres. Et moi-même, lors de ma première visite, j'ai été accueillie à la masse de Clavesol et j'en ai été très surprise par un résident qui nous a ouvert spontanément la porte après s'être enquis de qui nous étions. Il voulait savoir qui nous étions. Il avait les clés et il avait un badge et il nous a ouvert très gentiment la porte. Et je voulais dire aussi que tout à la masse est prévu aussi pour accueillir les familles qui viennent de loin et qui pourront séjourner quelque temps à proximité de leurs proches. Et ça, c'est important pour nous.
Pensez-vous que le maximum est fait en France par les malades et leurs familles? Et sinon, quelles seraient les plus urgentes améliorations à apporter?
Alors, bien sûr, il reste encore beaucoup de choses à faire pour les personnes malades et pour les familles. Et c'est très difficile de choisir parmi tous les besoins nécessaires, justement, aux personnes concernées et à leurs familles. Alors, on pourrait penser lutter contre la stigmatisation, par exemple, qui entraîne un retard considérable de l'accès aux soins. Donner à chacun un accès à des soins de qualité, à des accompagnements de qualité. En fait, l'UNAFAM demande qu'un véritable plan santé mentale et psychiatrie soit mis en œuvre, avec une vision qui soit intégrée, dotée de moyens financiers qui prennent en compte la prévention, les maladies et le handicap psychique, la déstigmatisation et la recherche, et puis l'accessibilité pour tous à l'emploi, au logement, à la formation, et qui reconnaissent aussi la place des aidants dans tous ces aspects-là. Voilà, donc ce que nous demandons, c'est un plan, comme il y a eu un plan cancer, par exemple, nous demandons un plan santé mentale et psychiatrie.
Bonjour Madame Lavirotte, pouvez-vous vous présenter et nous dire ce qu'est ESPER et en quoi consiste l'activité de père aidante ?
Bonjour, je m'appelle Magali Lavirotte. Aujourd'hui, j'ai 38 ans et moi, je vis avec un trouble psychique qui est apparu vers mes 20 ans, mais qui a été diagnostiqué quand j'avais 33 ans. Donc, je suis complètement un des exemples que Madame Mandran vient de décrier. J'ai eu donc une errance médicale, ça c'est pour mon pédigré psychique. Sinon, je suis passionnée de nature, je suis passionnée de bien-être, je pratique un peu les massages et de la gestion émotionnelle. Et l'année dernière, je suis devenue père aidante. Alors pour répondre à ta question de qu'est-ce qu'est ESPER, ESPER c'est une association qui embauche des pères aidants qui sont ensuite déployés dans les hôpitaux. À quelque chose près, c'est comme ça que je peux décrire ESPER. Et donc c'est un acteur du Rhône qui, au niveau national, est assez reconnu pour le déploiement des pères aidants. Ce qui m'amène à dire, qu'est-ce qu'un père aidant ? Il y a aidant dedans, donc c'est déjà une relation, on dit une relation de care, de soins, d'aider. Et père, c'est le mot parité, P-A-I-R. Et ça veut dire que je suis père d'autres personnes qui ont un trouble psychique. Et en cela, je peux les accompagner, j'espère les aider, à vivre et à connaître un petit peu mieux le trouble. Mais l'activité d'une père aidante, ce n'est pas uniquement en termes d'accompagnement individuel de personnes. C'est aussi les familles autour, les professionnels. Et il y a vraiment beaucoup de boulot. Je tiens à saluer cette profession parce que c'est une nouvelle profession qui est en train d'apparaître. Et à ma connaissance, je ne connais pas d'autres professions nouvelles qui apparaît.
Est-ce un métier ? Et si oui, y a-t-il une formation professionnelle particulière ?
Alors c'est complètement un métier, mais c'est une question très pertinente parce que avant d'être un métier, le mot existait déjà. On est père aidant quand on vit bien avec une maladie chronique. C'est pas forcément une maladie psychiatrique. La père aidance, on la retrouve par exemple avec des personnes qui ont traversé un cancer, qui vont aller apporter leur expérience, leur savoir expérientiel à d'autres personnes concernées. C'est aussi un métier dans le milieu de la psychiatrie qui est en train d'apparaître. On peut trouver des pères aidants dans des équipes médicales, socio-sanitaires, etc. Et c'est un métier aussi qu'on peut faire en libéral, seul. Ce qui est en partie mon cas. En termes de formation, ça fait depuis au moins 5 ans que la profession de père aidant s'est professionnalisée, voire un peu plus. Il y a un diplôme à Paris qui a été le premier. Alors, on aime bien des mots difficiles, c'est médiateur de santé père. Maintenant, il y a les pères aidants. Avec un diplôme, moi-même, j'ai suivi mon diplôme à Lyon. Et il y a des diplômes à Bordeaux, à Marseille, à Grenoble, etc. Il y en a de plus en plus avec l'apparition de la profession.
Votre activité concerne qui dans ce domaine ? Les malades, les familles, les deux ?
Alors, moi, j'ai envie de dire les quatre. Il y en a deux de plus. Derrière les mots malades, il y a les personnes concernées, c'est la même chose. Donc effectivement, un père aidant peut intervenir auprès d'une personne qui vit avec un trouble psychique. C'est la première possibilité. Le soutien aux familles est très très important et des fois il y a des questions que des familles peuvent avoir face à des professionnels qui ne trouvent pas forcément de réponse. C'est de l'orientation vers des autres associations, comme une partie de mon travail est vraiment de réorienter vers l'UNAFAM, par exemple. Et j'ai rajouté quatre parce qu'il y a les professionnels, c'est-à-dire des professionnels de la psychiatrie qui travaillent déjà en psychiatrie et qui voit apparaître cette nouvelle profession parce que ce métier, c'est de l'espoir, c'est un nouveau regard sur la maladie psychique. Et avant, c'était pas comme ça. Donc, sensibiliser et collaborer, dans le bon sens du terme, avec des professionnels de santé mentale, ça fait partie aussi des missions. Et le quatrième, bah, c'est le grand public, parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et je tiens à vous remercier et à remercier tous les acteurs, la MAS, Radio Calag, la mairie où nous sommes, parce que l'un des enjeux de la santé mentale, c'est le tabou. Quand on n'est pas au courant qu'on a un problème de santé, on ne peut pas se soigner. Et donc le problème de santé s'aggrave. Et autour du tabou de la santé mentale, moi j'ai été concernée parce que je suis la fille d'une personne qui était dépressive. Et ça m'a manqué. Ça m'a manqué à l'âge où j'étais petite et où si on m'avait dit, bah, tu sais, la santé mentale ça existe et puis il y a des troubles qui peuvent apparaître. Et bah, j'aurais peut-être pas su que j'avais un problème à 33 ans. Je l'aurais peut-être su à 18 ans, ce qui fait beaucoup, 15 ans d'écart. Et c'est des destinées de vie, en fait, qui, si on casse le tabou et qu'on parle au grand public, à vous, à vos parents, à tout le monde, et ben la santé mentale devient une affaire de tous, ce qui est le cas, mais personne ne le dit officiellement. Enfin si, plein de gens le disent.
Quels sont les besoins d'aide qui vous sont demandés le plus souvent ? Elles sont matérielles, psychologiques ou les deux ?
Alors je dirais qu'il y a les besoins qu'on me demande et il y a les besoins que je vois. Et que le premier, c'est l'écoute. Et les gens ont beaucoup de choses à dire parce qu'ils se posent aussi beaucoup de questions. Donc souvent, c'est déjà une écoute bienveillante et une présence. On peut me demander de partager mon vécu expérientiel, comment j'ai vécu ma maladie, mon trouble. Et après, derrière aussi, ma relation au médecin, où aller trouver les soins, comment je travaille, comment j'adapte ma vie à mon travail, enfin ma vie personnelle et professionnelle à mon trouble. Donc c'est une des choses qu'on peut me demander. Et puis de manière un petit peu plus durable, je vais proposer aussi de travailler sur la gestion des émotions, parce qu'on en a tous, mais quand c'est difficile, eh ben on ne sait pas trop comment les gérer. Je peux aussi apporter des explications sur le système médical et puis accompagner voilà, ce qu'on parle de parcours de soins et de parcours de vie, donc comment vivre avec son handicap psychique.
Pour la masse de Clavesol, êtes-vous déjà intervenu pour les résidents et leurs familles et comment ? Sinon, pensez-vous le faire ?
Alors je suis venue moi la première fois à la masse de Clavesol fin du mois de janvier. Donc j'ai découvert l'endroit récemment aussi. J'ai eu l'occasion d'y revenir entre-temps et de rencontrer mes premiers contacts avec les résidents. On discute, en fait, la MAS a vraiment, je crois que vous l'avez compris, un positionnement de psychiatrie moderne et contemporaine avec, des services de soins de qualité et d'accompagnement de vie. Ils ont déjà un père aidant, mais développer la père aidance au sein de l'équipe et... Des accompagnements de personnes, c'est un de leurs enjeux. Et je suis venue pour voir leur espace extérieur et éventuellement travailler avec les jardins et faire des activités de jardinage avec les résidents.
Quel est votre avis sur la situation des familles touchées par la maladie mentale ? Et de quoi ont-elles besoin en plus ?
Alors les premières choses que j'avais identifiées, c'est des mots qui ont déjà été prononcés, c'est briser le tabou, vraiment en parler, et le secret, parce que c'est deux choses, autant dans mon histoire personnelle que dans ce que j'ai pu observer, qui fait de nombreuses victimes collatérales au-delà du trouble, ce qui est déjà suffisamment difficile à vivre. D'orienter aussi et de parler, déjà d'en parler, de ne plus avoir de problème de parler de santé mentale. On en a tous, donc il y en a qui ont un trouble et puis il y en a qui n'en ont pas, vous en avez. La jeunesse, on vous en parle de plus en plus de votre santé mentale, c'est important, comme la santé physique. D'être orienté vers des structures, il y a l'UNAFAM qui existe pour le soutien des familles et amis et autres proches, mais il y a aussi des associations qui s'organisent, il y a des groupes d'entraide mutuelle, des GEM. Celui de Villefranche s'appelle Escampette. Donc voilà, vraiment porter la parole, ouvrir le débat et orienter vers des structures qui font de la santé mentale quelque chose de plus accessible, de plus vivant, de plus correct par rapport à ce qu'elle est. De manière générale, j'ai un discours assez clair sur les enjeux de prévention, que ce soit la prévention aux toxiques, aux drogues, la prévention par rapport au sommeil, à l'activité physique. Il y a énormément, énormément de critères de santé mentale à transmettre à la nouvelle génération, donc à vous. Et ouais, aller informer et en parler, et témoigner.
Monsieur Sanchez, bonjour. Vous êtes nouveau résident à la masse de Clavesol. Depuis combien de temps êtes-vous installé dans votre logement ?
Ça fait 4 mois. Et j'y suis très bien installé même, pour tout vous dire. J'ai une grande pièce qui fait la chambre. À l'intérieur, à côté, j'ai l'espace coin d'eau, c'est-à-dire la salle de bain, les toilettes, et tout ce qu'il faut quoi, pour prendre la douche. Ce qui n'est pas évident comme ça, si je vous dis que c'est normal, la plupart des gens me diraient oui, mais bon... Il y en a qui trouveraient ça d'appoint normal, oui. Et si je me disais de... si je me disais de... Si j'ai besoin de quelque chose, moi, je dirais rien de plus. Si ce n'est mon confort mental qui est déjà bien implanté et qui se prolonge. Que mon désir mental se prolonge. Ce qui veut dire, c'est... voilà, quoi. On va installer une cuisine près de la chambre. Voilà, on verra pour ça. Parce que c'est tout ce qui manque. C'est l'histoire d'avoir de l'eau chaude pour du café. Parce que c'est ce qui me manque à moi.
Comment trouvez-vous votre nouvelle installation ? Cela vous plaît ?
Oui, c'est super chouette. Les murs et la façade du mas Clavesol en lui-même est très beau. Et on n'a pas de problème, c'est ça qui est cool. C'est que tout est fait parce que c'est neuf. Alors, tout est fait pour qu'on n'ait pas de problème. On ne dirait pas comme ça, mais c'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, ce que font les gens qui nous entourent. C'est énorme. Voilà.
Qu'est-ce qui change le plus par rapport à avant ? Avoir votre propre logement et être seul ?
Ben, mais mon logement, oui. Mais pour l'instant, il est bien avancé pour que je sois seul, puisque c'est déjà une autonomie presque complète. Pour l'instant, je ne demande rien d'autre, non ? Si dans 6 mois, on en reparlera, mais bon, pour l'instant, c'est bonne jouvence.
Pouvez-vous nous dire à quoi ressemble votre logement ? Vous avez une chambre, une salle de bain, une cuisine. Faites-vous vos repas ?
Non, on ne fait pas les repas à la cuisine. Je vous l'ai dit, on va le faire parce qu'il n'y en a pas encore. Mais la chambre, elle est comme vous avez dit. Une chambre avec un coin d'eau. La douche, et voilà.
Et le paysage et le peu de bruit dans le village, vous trouvez ça comment ?
Très satisfaisant, très plaisant.
Ça ne vous manque pas trop, la ville ?
Non, pas du tout. La ville, ça ne me manque pas ici. J'ai même pas exploité l'environnement à sa juste valeur. Ça fait 4 mois, mais bon, pour moi, c'est comme si ça faisait 1 mois que je suis là. Voilà.
Vous pouvez sortir dans le village et la campagne. L'avez-vous déjà fait ? Comment cela s'est-il passé ?
Non, je ne l'ai pas fait, mais bon, ce que font les collègues, c'est de se promener jusqu'à l'épicerie, acheter ce qu'ils veulent. Et moi, je vais le faire, mais bon, c'est parce que je boite, alors j'attends, parce que ça monte et ça descend dur. Alors j'attends qu'ils me viennent à la force de le faire, c'est tout.
Avez-vous déjà rencontré des gens du village ? Comment cela se passe-t-il ?
Ben, j'ai rencontré l'épicière, et elle est très, très gentille. Et voilà, quoi. Alors, sinon, c'est bon contact avec les gens. Je ne les connais pas trop, mais bon, ils sont de bon contact. Je suis sûr qu'on va faire des belles choses ensemble.
Pouvez-vous recevoir des visites et en avez-vous déjà eu ?
Je peux en recevoir à ma guise, à la volonté de celui ou celle qui veulent venir. Avant, j'étais dans un pavillon psychiatrique et ils sont venus 4 ou 5 fois depuis qu'on est parti. Ils sont venus nous voir 4 ou 5 fois ici au Mas de Clavaisol. Parce qu'ils s'inquiètent, ils se demandent si on est bien traité. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est chez eux qu'on était maltraité, ce n'est pas ici.
Comment trouver les personnes qui travaillent à la masse ? Cela se passe bien ?
Ah oui, énormément bien. Ça a fait bon. Moi, ça me plaît beaucoup.
Pouvez-vous faire des activités en groupe avec les autres résidents et lesquels ?
Oui, eh bien, il y a une éducatrice qui a inventé des jeux qui sont très bien et que j'espère qu'on va fréquenter avec les copains. Mais c'est difficile à les bouger à tous. On fait des activités telles que le bricolage de perles. Qu'est-ce qu'on fait ?
Mosaïque, vous avez fait ?
Oui, la mosaïque, oui. Les mosaïques, oui. C'est plein de petites tables. Des tables comme ça, à la hauteur de celle-là, pareil.
En fait, vous vous sentez mieux depuis que vous êtes à la masse ?
Ah ouais, je revis, moi. Je me positionne en truc de très, très content, très joyeux.
Merci à vous tous pour toutes ces réponses.
Merci beaucoup à vous et bravo pour cette première. Alors.
Merci. Oui, merci à vous.
La masse de Clavaisol.
Un micro pour un établissement nouveau.